c'est un problème d'enchaînement des raisons. Il y a une cohérence très forte du signe. J'emploie le mot « signe » au sens des linguistes, au sens où le signe linguistique est compris comme du son et du sens, ou bien de la forme et du contenu. Et ce n'est pas seulement une description qu'on pourrait croire technique des choses du langage. J'ai essayé de montrer dans un livre qui est paru en 1995, « Politique du rythme, politique du sujet », il y a deux fois le mot « politique », qu'il y avait toute une paradigmatique du signe, que ce n'est donc pas seulement un modèle linguistique, mais que c'est aussi un modèle anthropologique, philosophique, théologique, social et politique. Et sur le plan linguistique même, ce n'est pas seulement qu'il y a du sens et de la forme. Jamais je n'ai vu, dans toute l'époque structuraliste, mentionner le rapport que moi j'essaye de montrer dans « Politique du rythme, politique du sujet » sur le type de relation qu'il y a entre le sens et la forme. Justement, Saussure et toute la tradition linguistique désignent ces deux éléments comme s'ils étaient symétriques. En réalité, ils ne sont pas du tout symétriques. Tout se passe dans le signe, où il y a un signifiant et un signifié, comme si le signifiant était escamotable, escamoté et maintenu en même temps. Et le signifié prend toute la place. Le rapport entre signifiant et signifié est un rapport où le signifiant a un rôle escamoté. Et c'est le signifié qui prend toute la place. Or, cette relation se reproduit de manière homologique dans tous les autres paradigmes du signe, pas seulement le paradigme linguistique. C'est-à-dire dans le paradigme anthropologique, le rapport entre la voix et l'écrit. En fait, la voix disparaît, il reste que l'écrit, avec même des dictons célèbres, hein, l'être qui tue, etc. Sur le plan philosophique, c'est l'opposition entre les mots et les choses. Là, par exemple, vous avez Hegel qui dit qu'il y a le meurtre de la chose. Il ne reste donc que le mot. Le paradigme théologique, ça c'est le plus superbe, il est merveilleusement représenté par la théologie chrétienne de la préfiguration, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament joue exactement le rôle du signifiant, escamotable, escamoté et maintenu. Mais le Nouveau Testament a, lui, tout le sens de l'Ancien. C'est lui qui donne le sens de l'Ancien, exactement comme le signifié donne le sens du signifiant. Et toutes les traductions courantes se font exactement selon ce modèle. Alors maintenant, le paradigme social, c'est le rapport entre individu et société. L'individu est escamoté, il reste que la société. Et le dernier paradigme, c'est le paradigme politique, et lui aussi, il est superbe, c'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui le représente le mieux. C'est le paradigme politique du signe, c'est minorité-majorité. Eh bien, dans la démocratie représentative traditionnelle, avec son formalisme, vous avez la minorité, mettons qu'elle fait 49%, elle est escamotable, escamotée, elle est maintenue, mais en fait, c'est les 51% qui ont raison de la minorité. Et c'est une véritable aporie, c'est un problème politique, la disparition de fait de la minorité. Et c'est cet ensemble-là de six paradigmes qui fait qu'il y a une politique du signe et une éthique du signe. Et cette éthique, c'est l'escamotage de l'individu. Le marxisme en étant une forme, par exemple. Mais c'est pas la seule. Alors, ça, c'est un ensemble d'une force extraordinaire, toute cette paradigmatique du signe. Le problème de théorie du langage, c'est de penser et de construire une contre-cohérence à cette cohérence du signe. Alors, se posent plusieurs questions. Comment et pourquoi ? Les deux questions étant inséparables. Comment imaginer qu'on puisse concevoir une autre représentation du langage que celle du signe? C'est précisément là que la traduction intervient. Parce que c'est en confrontant des cultures différentes qu'on peut prendre acte du fait que le signe, qui se présente comme la nature même du langage, n'est qu'une représentation. Et comme représentation, elle est, comme toutes les représentations historiques, culturelle située et limitée. Elle a des limites. Et donc le problème de la contre-cohérence, ce n'est pas de dire qu'on peut sortir hors du signe, comme on disait du temps de Roland Barthes, et puis avec le modèle de la folie d'Antonin Artaud, sortir hors du signe, comment ? Par la folie. Non, le signe, vous n'en sortirez jamais. Le problème n'est pas de sortir du signe. Ça serait une folie. Et en fait, ça ne serait qu'un jeu culturel. Le problème, c'est de repérer les limites du signe et donc de conceptualiser un autre modèle culturel, et c'est pour ça que je parle de révolution culturelle, où on penserait non plus le discontinu du signe, mais le continu. Et qu'est-ce que c'est que le continu ? Eh bien, au lieu de penser le langage en termes de sens et de forme, ou de forme et de contenu, de son et de sens, c'est de penser le continu entre le corps et le langage, le continu rythme, syntaxe, prosodie, dans tout ce qui est construction poétique, littéraire et philosophique, parce que je pense qu'il y a une poétique des textes philosophiques aussi, et à partir de là, s'enclenche une réaction en chaîne. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de construire dans un livre antérieur que j'ai appelé « Critique du rythme, anthropologie historique du langage », qui est apparu chez Verdier en 82, et où j'ai montré que, justement, en confrontant des cultures, on peut sortir de la définition traditionnelle du rythme, comme une alternance du même et du différent, un temps fort, un temps faible, et montrer que le rythme, c'est l'organisation du mouvement de la parole dans le langage. Et si vous changez la définition du rythme, l'organisation du mouvement de la parole dans le langage, vous faites une critique du signe, une critique linguistique du signe, mais aussi une critique culturelle du signe. Et à partir du moment que vous dites « c'est l'organisation du mouvement de la parole », qu'est-ce que la parole ? La parole, au sens de Saussure, c'est une initiative individuelle. Et ça pose la question de quel sujet s'agit-il ? Et là aussi, on bouscule les idées reçues, parce qu'au lieu d'avoir ce qu'on appelle toujours la question du sujet, on montre la pluralité de la notion de sujet. Et donc, il n'y a plus simplement le sujet, disons, philosophique, traditionnel, qui s'oppose, disons, au sujet freudien, au sujet de la psychanalyse. Je compte une douzaine de sujets. Il y a le sujet philosophique, le sujet psychologique, il y a le sujet de la connaissance des êtres, le sujet de l'exploitation des êtres, le sujet de la connaissance des choses, le sujet de la maîtrise technologique des choses. Il y a le sujet du droit, extrêmement important. Article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes de 1789 savaient très bien que ça n'existe pas, mais que ça devrait exister partout. Donc le sujet du droit est capital. Il y a le sujet de l'histoire. Pour le marxisme, il y avait les masques qui étaient le sujet de l'histoire. Il y a le sujet de la langue, le sujet de Saussure. Il y a le sujet du discours qui est le sujet de Benveniste. Et puis il y a le sujet freudien, évidemment. Mais nous sommes tous des sujets freudiens. Et bien dans tous ces sujets, il n'y a pas celui qui invente un poème. Donc je suis obligé d'ajouter un 13e qui est le sujet du poème. Et à partir de là, on montre le rôle de l'art, le rôle éthique et politique de l'art. Et là, on peut prendre des intuitions théoriques chez Baudelaire, chez Mallarmé, qui dit que l'artiste est en grève générale contre la société. On commence à apercevoir qu'il y a une éthique de l'art, où l'art joue un rôle dans la démocratie. Et à ce moment-là, si le sujet du poème et le sujet de l'art transforment l'éthique, qui n'est plus la notion des philosophes, comme disait Peggy, l'éthique, elle a les mains pures, mais elle n'a pas de mains. Le problème, c'est de transformer l'éthique, et ça peut se faire par la transformation de la pensée de l'art et de la pensée du langage. Et si on transforme l'éthique qui concerne tous les sujets, y compris le sujet du droit, eh bien là, on travaille le politique, c'est-à-dire la conception du politique. Et donc on peut travailler aussi à transformer la pensée du politique. Si on travaille à transformer la pensée du politique, on fait ce que Marx disait qu'on ne peut pas faire, parce que dans ses aphorismes sur Feuerbach, il disait « Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait que interpréter la société, il s'agit de la transformer. » Et moi, je pose que si on transforme la pensée, on intervient sur la pensée. Si on intervient sur la pensée, on intervient sur la société. Et à ce moment-là, on travaille aussi à transformer le politique Et donc, on travaille à transformer la politique, qui est le règne du cynisme, c'est-à-dire la force contre la liberté, ce qui est une abstraction binaire, où on retrouverait le signe. On travaille à transformer la politique. Et là, la traduction, effectivement, joue son rôle, parce que elle a un sens éthique, où il ne s'agit plus d'opposer identité et altérité, mais de montrer que l'identité n'advient que par l'altérité.